Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le Practice RMC est là pour une quatrième saison. La Dream Team est présente deux fois par semaine pour commenter l'actualité des plus grands champions, des plus grands tournois. Notre envie aussi, vous aider à progresser dans votre golf avec nos partenaires UGolf, Blue Green et Callaway. On vous conseille sur la technique, sur le matériel et nous répondons à toutes vos questions. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode, le numéro 51 du Practice RMC. Pour participer à ce podcast, découvrir des contenus, des conseils, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du Practice RMC. Vous vous abonnez, vous likez, vous nous laissez des petits messages évidemment. Alors aujourd'hui, la 20e victoire de Rory McIlroy sur le circuit européen après un play-off irrespirable lors de l'Irish Open. La belle perf également de notre français Adrien Sadier qui pourrait évoluer au sein du PGA Tour la saison prochaine. On en parle évidemment avec nos experts, avec la bande, le boss Hugo Blue Green, Fabien Donoyan, notre prof Ramoud Chouartola et notre éditorialiste Martin Coulon. Salut les amis.
Salut, salut JC, salut, salut à tous.
Vous êtes en forme?
Bah ouais, carrément.
Ça se voit pas là.
Plutôt.
Allez, du gaz les mecs, est-ce que vous êtes en forme?
Oui.
Voilà, parfait. Alors on a deux invités aujourd'hui car nous allons parler de la Garmin Cup. C'est une compétition de golf qui se passe d'ailleurs sur le golf Blue Green d'Apremont.
UGolf.
J'ai dit quoi? Blue Green? UGolf. Ce sera coupé au montage. Non, on laissera tout évidemment. Comme ça, on fait de la promo pour les deux.
C'est pareil, UGolf, hein, UGolf, Blue Green, c'est pareil.
UGolf d'Apremont. C'est la Garmin Cup. C'est la deuxième édition. Nous sommes tout d'abord avec Romain Fontaine de chez Garmin. Salut Romain.
Salut à tous.
Alors, je sais ce que tu fais, mais je ne sais pas du tout ce que tu fais. Parce que tu es responsable trade et marcom marketing. Marketing, ça veut dire quoi?
Ça veut dire beaucoup de choses. Trade, je m'occupe de la relation avec tous nos revendeurs sur la partie sport, outdoor et automotive. Et marcom, c'est moi qui gère tous les lancements produits chez Garmin. Voilà, en gros.
Pour ok, donc les montres, c'est toi?
Les montres, entre autres, c'est moi, mais c'est qu'une partie du travail.
Mais bien sûr, c'est qu'une partie du travail, mais nous on adore les montres, enfin tu sais que j'adore ça. Très bien, mais si on le mettait en français, ça, c'est quoi ton boulot? En français, ce serait quoi?
Responsable marketing.
Responsable marketing, ouais, voilà. En français?
Ouais, c'est bien.
Non, même marketing en français, c'est l'anglicisme. Responsable marché?
Allez, si tu veux.
Allez, responsable marché, Romain Fontaine de chez Garmin, merci.
Alors, je savais que ton anglais n'était pas bon, mais à ce niveau-là, j'avoue.
En fait, il est très bon.
Parce que tu peux prendre des cours du soir maintenant. T'as une émission qui cartonne à partir de minuit.
Tu as raison.
Je pense qu'avant l'émission, tu pourrais peut-être faire de 22h à minuit des cours d'anglais.
Alors, digression. Tu as raison. Je me suis dit d'ailleurs que j'allais en prendre, mais en même temps, je fais croire que je suis mauvais en anglais pour vous faire briller.
Ah, c'est de l'humour.
C'est de l'humour.
Pardon.
Alors que je suis très bon. C'est de l'humour black.
C'est très malin.
Comme on dit. Avec nous également, Pierre Lartaud, le papa de Mathieu Lartaud, commentateur de France Télévisions. On le connaît tous, évidemment. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, parce que cette Garmin Cup, c'est évidemment un moment de convivialité, mais c'est aussi un moment important pour une association, l'association de Mathieu et de toi, évidemment. Tu es le président de cette association, de bout en bout, et on en parlera dans ce podcast. Merci d'être avec nous. On va parler de golf et de Rory McIlroy, ça fait longtemps quand même, les copains. Allez, c'est parti.
Would you believe it? McIlroy eagles the last and draws up alongside Lagergren. The crowd go nuts.
What a putt from Rory McIlroy. And now Lagergren must hole to stay alive. Not to be. McIlroy provides the X factor at the K Club.
Le Practice RMC.
Alors décidément une année incroyable pour Rory McIlroy après sa victoire en play-off au Masters, sa victoire en play-off aux Players, au Masters donc. L'Irlandais s'est imposé chez lui en play-off face à Joachim Lagergren lors de l'Irish Open. C'est son 20e succès sur le circuit européen. En tête après 54 trous, on va en parler dans un second temps. Adrien Sadier, le Français, termine finalement 5e, mais il marque de précieux points à la Race to Dubai et on espère évidemment qu'il pourra, comme d'autres Français, rejoindre le PGA Tour. La victoire de Rory McIlroy, mais messieurs, on en a débriefé beaucoup, on a aussi débriefé ses échecs. Elle est arrangée où, cette victoire? Oui, c'est la 20e victoire, oui, c'est encore un play-off cette saison, mais on peut la situer où, Martin?
Quand tu t'appelles Rory McIlroy, que tu es nord-irlandais et que tu vas jouer ton Open National après une année comme celle qu'il a vécue, dire que tu es attendu au tournant, c'est un understatement, ça veut dire... Quoi? Un understatement.
Non, je ne sais pas. C'est trop compliqué. Moi,
je fais mon Jean-Claude Van Damme. Je suis
plus trois syllabes de la rue. Ouais.
Voilà, il est plus qu'attendu au tournant. Et répondre comme il l'a fait là, par ce dimanche au K-Club, qui est quand même un parcours de Ryder Cup, hein, faut-il le rappeler, dans ces périodes de Ryder Cup qui arrivent, ça pèse aussi là-dedans. Fini la gueule de bois, parce qu'on est, en train de le charcler depuis l'après-Masters, a raison, parce que statistiquement parlant et comptablement parlant, et dans son attitude, il n'y avait pas grand-chose à retenir de tout ça, ça faisait un peu gueule de bois et tout, coquesse. Certains diraient même, ouais, il fait un peu son touriste, suivez mon regard. Mais là, cette victoire-là, pour moi, elle pèse dans le sens où, ok, c'est pas un tournoi de giga grande classe, il n'y avait pas un champ de giga mondial, etc. etc. Tu peux aller là-dedans, c'est du tour européen.
Mais okay. Il a montré qu'il avait envie, c'est ça.
Exactement. Il a montré qu'il avait envie, et surtout, il a sorti des shots qu'il fallait sortir au moment où il fallait les sortir, une fois de plus. Une fois de
comme
plus.
Comme la sublime gratte lors du deuxième
tour de play-off. Je m'en fiche, je vois le résultat.
Sur un coup de fer 7
ouais, mais dans, splendide. Tu peux dire dans ces cas-là que tu Martin, te mets les deux dans le tapis, que tu peux tout perdre.
On va pas, parce que moi, ça m'amuse assez, parce que dès que tu touches maintenant McIlroy, tu as l'impression que tu touches à la Joconde, tu touches à quelque chose d'intouchable. Le talent du garçon, à aucun moment on peut revenir dessus, et il l'a encore prouvé hier. N'empêche que sur son tour d'hier, mais il peut, c'est pas la Joconde qu'il faut qu'il aille voir, c'est la Vierge, parce qu'il a quand même 2-3 shots.
Le 15,
dans un tour normal, il la met quand même 15 mètres à gauche, elle va pas dans l'eau, miracle. Au 14, il la met pas dans l'eau, miracle. Ensuite, il rentre un putt qui change toute sa partie, où la balle, j'avais jamais vu ça, mais j'ai même trouvé ça assez, assez cocasse. La balle, elle fait un 360
et, après,
elle rentre. Je ne reviens pas sur le talent, je ne reviens pas sur l'envie, je ne reviens pas sur, sur ce qu'est Rory McIlroy. Et quand il est comme ça, il est même plutôt très agréable. Il n'empêche que j'ai envie de dire, mais qu'heureusement, quand tu es numéro 2 mondial, que tu es à la maison, que tu portes, on est début septembre, que tu portes le golf européen, que tu dois effectivement montrer que tu es dans d'excellentes dispositions, ce que n'ont pas fait Shane Lowry et Tyrell Hatton, et sauf votre respect à tous, je crois qu'ils sont dans la même équipe dans 3 semaines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dit dans des podcasts précédents que le DP World Tour, malheureusement, je dis bien malheureusement, on en parlait hier dans nos messages, nous on a connu le Tour européen avec les Langer, avec les Montgomery, avec les Ballesteros, et qui était le tour majeur. Aujourd'hui, quand tu prends le départ avec le champ qui est proposé de grandes qualités, mais il n'y a pas les meilleurs joueurs du monde. Donc, il a été au rendez-vous. Moi, ce que je retiens, il était présent, il est chez lui, il a fait kiffer le public, et ça, je trouve ça génial. On voyait les gamins qui regardaient les... Donc, extraordinaire. Maintenant, à 3 semaines d'une échéance importante, j'en attends plus encore de Rory.
Tu donnes le bâton pour te faire battre.
Mais non, mais quel bâton? Il part en play-off. Il est obligé de rentrer. Oui, c'est moi. Il est obligé de rentrer.
So what? Le type, il l'a dans la tronche.
Mais ne me dites pas...
Surtout, ne me dites pas so what, parce que je ne comprends pas.
Donc quoi?
Le niveau... Non, mais là, ce qui me gêne aussi parfois, c'est que vous regardez Rory, à mon sens, trop... sur le prisme du fan, c'est-à-dire que...
Non, pas du tout, mais pas du tout.
Alors explique-moi.
Il arrête de banaliser sa victoire. Qui est capable, alors qu'il est attendu, il doit faire eagle au 18.
Ah mais c'est pas un majeur.
Dangereux. Mais peu importe, il le fait. Il doit faire eagle pour pousser un play-off. Qui, à part peut-être Scotty, enfin je ne sais pas qui est-ce qui a les ressources nécessaires, la volonté.
Mais moi je t'inverse la question, il faut qu'il fasse eagle alors qu'il peut plier le tournoi.
Mais on s'en fiche.
Mais ça c'est le golf.
C'est l'effet de jeu.
Mais non, mais tu te rends compte. Vous regardez Rory McIlroy comme deux fans. Moi ce qui me plaît chez lui,
je serais aussi impressionné si ça avait été un Américain, un Espagnol, qui que ce soit.
Mais non, tout le monde en fait des caisses, même à la télé hier quand ils commentent, ils sont pour Rory.
C'est extraordinaire.
Quand ils commencent les tournois, ils sont pour Rory.
Non, mais ça va avec la légende qu'il a pu créer, le Masters qu'il a gagné, le fait d'être pour Rory. Et c'est vrai, là où je rejoins Fabien, c'est qu'il y a un côté fan, parce qu'il est passé de l'autre. Depuis qu'il a gagné ce Masters, il avait pu gagner depuis 2014 un majeur. Il est rentré dans une autre sphère, Rory. On peut tous le dire. Et c'est vrai que le fait d'être rentré dans une autre sphère, il devient intouchable. Alors, à juste titre, parce que c'est un immense champion, évidemment. Mais est-ce que parfois, il y a des choses où vous vous dites, il n'a pas besoin de tout ça. Et c'est vrai que cette Eagle, enfin, moi je l'ai vu, j'ai crié chez moi, j'étais dans mon canapé, j'ai crié quand il a
fait construit Aline cette ou pas Eagle.
Mais comment
il y avait Aline ou pas
Non, parce que j'ai n'était pas là, malheureusement. Ouais. Oui, ça, je l'avais. Ça, c'est pas de l'anglais, donc je l'avais. Mais j'ai crié, mes enfants sont arrivés, on m'a dit, qu'est-ce qui se passe Je dis, attends, il y a Rory qui vient de mettre un pote, quand même, c'est magnifique. Non, mais donc ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, franchement, plein de fois, mais c'est du Rory, vous allez me dire. Mais il est à ça du précipice, quoi.
Mais oui. C'est son jeu, les gars. Oh, et c'est pas être fan, c'est pas du fan mail, c'est pas d'être fan d'eux aujourd'hui, ça, encore une fois. Il a toujours été comme ça. C'est un gars hyper agressif. Il est d'une inconstance dingue, on l'a toujours dit. C'est factuel, c'est factuel. C'est un joueur hyper agressif. Point barre. Et quand t'es, je suis désolé, quand t'es Rory McIlroy, numéro 2 mondial, sur le Tour européen, que tu soutiens le golf européen à 3 semaines de la Ryder Cup, ou 4 semaines, que t'es chez toi en Irlande, que t'es attendu comme le Messi, que t'es 4 coups derrière la tête à l'entame du dimanche et que tu balances 66 avec Eagle de 18.
Gorgonosi, il était à 4 coups derrière et il...
C'est... Pardon.
Non mais encore une fois, regarde ce qui,
c'est
qui
pas
fait
la... Deux,
non,
mais c'est
ce
factuel,
qui... Non, ce qui fait la différence, le coup de fer sur le troisième trou de playoff de Lagergren.
Ah oui, bah ça... Toi, hein.
Donc lui finit dans l'eau.
Ouais.
Rory, deux coups. Il met quand même, sur un coup de fer 8 de mémoire, il met 15 mètres à gauche. Sur le drive qui tape au 14, peu importe, il finit à ça de l'eau, il a un shot pour le green. Le pauvre Lagergren, il fait le même coup. Hyper agressif parce que au moins, à un moment donné, et je rejoins d'ailleurs, c'est François Calmes qui commentait, c'est que ce trou... qui ne présente pas beaucoup de difficultés, il dit qu'il faut qu'il y en ait un. Ouais, il faut qu'il y en ait un.
Qui prenne un risque.
Qui porte un peu son courage, pour être tout à fait poli.
On avait compris.
Et qui attaque. Et le mec, il fait un coup fantastique. Elle est à 2 mètres à gauche. Elle finit dans l'eau. Et ça fait toute la différence. Mais moi, ce que je veux dire, le talent de Rory, mais évidemment, tu es obligé de kiffer. Même, je trouve qu'il devient de plus en plus charismatique. Enfin, il a des épaules de camionneur. Le mec, il a une vraie prestance. Et je trouve que là-dessus, il a les cheveux qui commencent à grisonner. Donc, je vais bientôt pouvoir m'identifier. Non, mais le talent pur, aucun souci. Simplement, j'ai envie de dire qu'il est numéro 2 mondial. Il arrive sur le DP. Il gagne. Il est au rendez-vous. C'est... Si on faisait la comparaison, tu mets Scotty sur un Korn Ferry, j'ai envie de dire, heureusement qu'il irait gagner le tournoi.
Comparaison, c'est pas valable du tout. Mais non, tu arrêtes de. Je comprends pas. Autant dénigrer. Mais non, parce que le Korn Ferry, il est quand même, je sais pas, un peu en dessous. Mais arrête-toi sur l'exploit.
Le niveau du Korn Ferry est en dessous du Tour européen.
Oui, j'ai la prétention de le dire. Oui, il est légèrement en dessous quand même. Oui. Mais de toute façon, t'es parti sur le principe que quoi que fasse Rory. Ben c'est jamais suffisant.
Mais pas du tout.
Ça jamais
pas
suffisant.
Pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai été le premier.
Attends, j'adore le golf. Attends, j'adore le golf. Comment tu peux pas être époustouflé par un joueur, encore une fois, qui doit faire eagle pour aller en playoff. Mais il se trouve que c'est Rory.
Mais c'est son personnage.
Malgré tout, il faut être.
Mais je n'ai cessé de dire ici que j'étais époustouflé, pardon, par le talent. Mais si, par le talent du joueur. Maintenant, il a fait un très très bon début de saison. Ensuite,
exceptionnel.
Ouais, enfin, il gagne le Players, il gagne le Master. Oui, mais pendant 4 mois, il était aux abonnés. Il a été aux abonnés absents. Il revient là et j'espère pour l'Europe qu'il va garder son niveau de jeu. Et je pense que c'est extrêmement important pour l'Europe qu'il prenne, et je trouve que c'est même au bon moment, le leadership de l'équipe.
Bah, donc c'est là où moi je... C'est pas une réponse de fan que je vais te faire là par rapport à ça. C'est une réponse d'un bonhomme qui doit être au rendez-vous, c'est pas machin, ceci, cela. Il est numéro 2 mondial, leader de l'Europe, la Ryder Cup arrive, il est en Irlande, il est chez lui, il arrive avec la veste du Masters pour la première fois, il y a un gros barnum autour de lui, tout le monde lui tombe dessus, les fans, les gamins, il doit répondre présent, et non seulement il répond présent, mais il répond présent avec la manière.
Est-ce que vous avez vu le tournoi, les quatre tours du tournoi.
Le pato 15 qui fait le 360, il est dingo, tout
Martin,
ça.
Martin, est-ce que vous avez vu les quatre tours du tournoi?
Quasiment, ouais.
Voilà. Bon. Mais il est tellement au-dessus. Mais il est tellement... Il a un tel talent qu'il est mais très largement au-dessus.
Oui, mais le golf, tu sais que c'est pas ça.
Et puis surtout, t'as un tournoi.
Bah si, parce qu'il l'a prouvé. Parce que je peux t'assurer que pour faire l'eagle au 18, c'est même plus du talent. Enfin, les mecs, il met quand même drive faire 8.
Quand même.
Mais non, mais t'arrives pas à séparer deux choses. Moi, je le regarde pas en tant que fan.
Mais moi non plus.
Je suis pragmatique. C'est le plus grand talent du golf actuel. mais que malheureusement, son irrégularité...
Mais tu veux qu'il soit quoi, moins 52 après 4 tours, qu'il
mais
fasse
non,
62
mais
toujours
non, tu vois, ça, mais, ça a mais pas c'est, de sens. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, c'est qu'à un moment donné, sur certains coups, il met des coups de wedge, t'hallucines. Je ne citerai pas le joueur que j'ai croisé cet été. Je ne citerai pas le joueur qui a eu une grande part en Ryder Cup. Et il fait, alors que c'est un ami proche, il fait le même constat. Le même constat, c'est qu'il n'y a aucun jugement sur la valeur pure, intrinsèque du joueur. Simplement, comment tu peux faire des coups comme le coup, le dernier tour au Masters au 13,
ça,
t'hallucines quoi.
En tout cas,
j'ai aucun mal à le reconnaître ça.
Il avait reconnu des beaucoup plus gros
tours. Il avait reconnu son passage à vide depuis le Masters, son léger passage à vide, sa lassitude, ça, il l'avait reconnu et il l'avait annoncé. Et il avait annoncé qu'il serait en forme. Avec la rentrée à peur de Ryder Cup. Et il est au rendez-vous.
Et il a déclaré donc, ces derniers jours que là, ça pouvait être la plus grande année de sa carrière.
Ouais, en tout cas, moi, j'aurais quand même dit un point. À la sortie du Masters, tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit, moi, je trouve, et Ramucho, tu en faisais partie, oui. On pourra retrouver le podcast, que je l'avais un peu traité de touriste quand il était venu jouer le double PGA Tour. Ah, et c'est marrant parce que quelques semaines après, lui-même a déclaré. Alors, pas dans ces termes, mais qu'il était beaucoup plus dilettante, qu'il n'arrivait plus. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, Rory choisit ses moments, choisit ses tournois.
Ça s'appelle gérer une saison.
Voilà.
Ça s'appelle gérer une saison.
Oui, ouais. Non, mais ça s'appelle, ça je suis d'accord, ça s'appelle gérer une saison et aussi voir où sont ses priorités. Et c'est vrai que maintenant, Rory, en gagnant le Masters, ça a fait voler en éclats, on va dire, un peu la suite de sa carrière parce qu'il a le Graal absolu et maintenant il se concentre sur les. Après, on peut le regretter, hein, ça, tu as raison. Romain Fontaine, tu en penses quoi de tout ça, de cette discussion? Parce que Rory, on en a souvent parlé dans le Practice RMC.
Ben, écoute, moi, ce que je retiens, c'est qu'il a répondu avec la manière, il a réussi à se remobiliser. Je ne suis pas forcément fan, moi, de Rory, c'est pas mon joueur préféré, même si je l'aime beaucoup. Mais il est forcé de constater que à 4-5 trous de la fin, il est encore présent, il fait des coups fantastiques. Et qu'il se remobilise pour aller en play-off et gagner avec la manière. Et c'est aussi un beau pied de nez qu'il fait à l'équipe US pour dire « Attention les gars, je suis là, l'Europe va être en feu pour la Ryder. »
Et sachez qu'on en parlera vendredi de la Ryder Cup côté Europe avec Nicolas Kotstart, le vice-capitaine de cette équipe européenne en 2023 avec la victoire en Italie. Il sera notre invité exceptionnel. Évidemment, on parlera avec lui de cette équipe européenne. Voilà pour Rory McIlroy. Alors, on pourrait dire beaucoup de bien, parce qu'on n'en a pas dit que du bien, mais comme d'habitude, ça fait débattre dans le studio RMC. Je voudrais qu'on parle de nos Français et notamment d'Adrien Sallier, qui était en tête après trois tours. Est-ce qu'il y a une petite pointe de déception chez vous quand on voit son quatrième tour où il a jamais été en mesure de rentrer un birdie? Ça a été très compliqué. Il a tenu quand même. Il a tenu et ça, il faut le saluer. Pour terminer cinquième, je crois que son premier birdie, c'est le 18, hein,
ouais,
hier. C'est quoi? C'est la déception qui prédomine,
oui,
ou pas?
Oui, parce qu'il s'est... Alors, je ne sais pas si, mais en tout cas, il ne s'est jamais mis en situation de faire des birdies. Un dernier tour à l'Irish avec des joueurs comme, entre autres, Rory derrière. Il vaut mieux mettre assez près pour faire des birdies. Donc, c'est vrai qu'il s'est mis assez loin. Est-ce qu'il a voulu gérer son avance? Je ne l'ai pas entendu là-dessus, donc je ne m'avancerai pas. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu été spectateur, malheureusement, de ce dernier tour. Mais il finit surtout sur une très bonne note avec ce birdie qui lui permet de cinquième et marquer des points précis.
Il marque des points. Je vous donne le classement d'ailleurs à la Race to Dubai. Vous savez qu'il y a 10 tickets qui sont offerts pour ceux qui ne sont pas encore au PGA Tour. 10 tickets pour la saison prochaine. Rory McIlroy est évidemment en tête à la Race to Dubai, mais lui, il est déjà sur le PGA Tour. Sachez que Adrien Sallier est 11e. Il a gagné 3 places. Il est 11e, donc pour l'instant, il chope le 8e ticket. Le 8e ticket et le 7e ticket, c'est pour Martin Kouvra.
Non, mais voilà. Il fait une saison.
Il a gagné l'Open d'Italie.
Là, franchement, son niveau de jeu, déjà, parce qu'il a coupé pendant l'été, son niveau de jeu était fort, il a gagné en Italie, il a coupé, il revient, et il revient avec des résultats incroyables. Donc là, moi, j'ai plus envie de mettre en avant le golf français qui performe et avoir 2 mecs sur 10 qui sont susceptibles, au moment où on se parle,
c'est fou quand
d'aller
même,
sur le PGA Tour.
Pour en avoir
on garde,
plus.
Voilà, on garde une sacrée dynamique, et ce qui montre que le golf français progresse, qui montre que on est de plus en plus en contention, enfin eux d'ailleurs plus que moi, pour aller gagner des gros tournois. Il y a Wentworth qui arrive. Franchement, c'est grosse fierté, quoi.
Il joue quand même les dernières parties en Suisse.
C'est incroyable.
Et
il met très bas. C'est, il fait des scores.
Très très bas, ouais.
Il fait des scores. Au moins un ou deux. Au moins un ou deux. Enfin, il était en tête le premier jour. Non, c'est, ça, il faut le mettre en exergue parce que très souvent, on se gargarise de ce que font les autres. Je pense qu'aujourd'hui, tant sur le circuit féminin d'ailleurs que le circuit masculin, on a un niveau de jeu qui commence à se densifier et ce niveau est de plus en plus haut.
Avant de te donner la main, un point donc sur ce classement, la Race to Dubai, je le disais, Rory McIlroy est premier, Marco Page, on va en parler lors de notre épisode, parce qu'il aurait pu faire partie de l'équipe européenne, il est deuxième, il a donc son ticket, et il devrait, vu son nombre de points, 2743 points, il devrait déjà décrocher sa place pour le PGA Tour la saison prochaine. En troisième, il y a Christopher Reitan, il y a Tyrell Hatton qui est quatrième, il y a Lee qui est cinquième, il y a John Parry qui est sixième, il y a Laurie Cantor qui est 7e, qui pour l'instant a donc aussi sa carte pour le PGA Tour. Jordan Smith 8e, Martin Kouvra 9e, Bob McIntyre 10e, lui est déjà sur le PGA Tour, et donc Adrien Sadier 11e. Et donc les 10 tickets pour le PGA Tour, et ben le 10e ticket, c'est le 19e qu'il a. Il est à 400 points derrière Adrien Sadier. Vous connaissez bien le système de points. Est-ce que ça veut dire là que normalement, sauf accident industriel, Adrien Sadier et Martin Kouvra,
combien de points ils ont?
400 points d'avance.
Non. Au total, il faut passer les 2000 points pour
Ils ont 1539 points. Ça, c'est pour Adrien Sadier. Et Martin Kouvra, c'est 1638.
Il faut passer. Il faut. Enfin, les années précédentes.
En moyenne, c'est 2000.
C'est 2000 points.
Et là, tu as quand même Wentworth qui arrive. L'Open de France, le Dunhill. Toute la finale, toutes les trois derniers tournois. Donc non, il y a du boulot, mais ce qui est intéressant pour parler d'Adrien, c'est la régularité avec laquelle il arrive à se hisser après 2-3-4 tours, puisqu'il a déjà gagné en Italie, au plus haut niveau, quoi. Et quand tu répètes sur quasiment 2 semaines de suite entre Cran et en Irlande, ce genre de performance-là, que tu mets 4 coups dans la tronche de Rory McIlroy, quoi qu'on en pense, après 3 tours, ça en dit long sur l'état du jeu du bonhomme, quoi.
Et donc, même l'attitude du joueur, je trouve qu'il...
Il s'ouvre un peu plus, Adrien.
Il s'ouvre. Alors moi, je le connais pas suffisamment bien, mais il est. Tu sens que c'est ultra professionnel en fait, et tu le vois d'ailleurs dans. Et je trouve qu'il fait un excellent binôme aussi avec Andrea Ginola, qui est le fils de David.
Donc quasi, ouais.
C'est un très beau duo, et je sais pas, le mec, il dégage une vraie sérénité.
Alors c'est vrai, il dégage une vraie sérénité, mais on a eu Martin Kouvra dans ce podcast qui est. La légèreté, l'insouciance, appelons ça comme on veut. C'est vrai qu'Adrien Sadier, même sur le parcours, il est plus et puis c'est son style, hein, mais il est plus renfermé. Non, on sent qu'il est plus dans sa bulle.
Oui, il a des process et on a l'impression qu'il respecte à la lettre, quel que soit le trou.
Mais c'est ni positif ni négatif, c'est objectif.
Après, pour Martin, c'est normal le trou d'air qu'il a depuis quelques semaines. Ça paraît logique. Maintenant, sur le talent pur. On l'a dit ici et dans les podcasts, c'est qu'il a, on l'a quand même comparé à Rory McIlroy. Hein. Je pense que il va taper un ou deux très bons résultats qui vont lui permettre de prendre la carte.
Il a rappelé il y a quelques jours, Martin Kouvra, il avait dit dans ce podcast il y a 3 mois, je crois, il a dit si je dois y aller sur le PGA Tour, c'est que je suis prêt. Donc il est même prêt, lui, j'ai l'impression, philosophe, à renoncer. Ce serait quand même dommage de ne pas y aller cette saison quand on voit son nombre de points et là où il est placé.
Oui, mais si t'es pas...
Parce qu'on ne sait jamais, vous savez comment c'est le golf, on ne sait jamais comment on peut performer la saison d'après.
Oui, mais enfin, si t'es court et que, que tu as les résultats qui te permettent de monter là-haut, c'est que oui, effectivement, factuellement, c'est même pas... t'es pas prêt, voilà, point. Donc c'est plutôt un raisonnement, c'est pas philosophe, c'est réaliste.
Est-ce que le plus dur est là pour nos Français là? Le plus dur, c'est justement d'aller chercher ces quelques points qui manquent.
Je ne sais pas si c'est le plus dur, parce qu'ils ont déjà prouvé tellement de choses tous les deux cette saison. Ils se sont déjà aussi prouvé eux-mêmes tellement de choses sur leur niveau à des échéances de carrière différentes. Martin qui commence sa carrière, Adrien qui est dans la pleine fleur de son exercice professionnel. Qu'ils aillent sur le PGA Tour, franchement, je pense qu'il n'y a pas photo, ils ont le niveau pour. Après, c'est toujours pareil.
Voilà, c'est conserver la carte.
Oui, conserver la
carte. Parce que cette année, il y en a très, très peu, des 10 qui vont la conserver. Je ne sais pas s'il y a un joueur qui conservera la carte du PGA. Donc, et pourtant, ce sont des joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle, qui ont un niveau de jeu. Mais le PGA Tour est particulier dans son style de vie, ses relations avec les joueurs, etc., bouger constamment, etc. Il faut s'en accaparer, il faut être dedans. Et le niveau de jeu, évidemment, est là pour vous rappeler chaque semaine que vous ne devez pas lâcher un point.
Mais attention, hein, c'est sur le PGA Tour, les 10 cartes qui montent sur, ils n'ont pas accès à tous les tournois non plus.
Bah oui.
Donc
c'était le cas de Mathieu Pavon et heureusement qu'il a gagné Torrey Pines pour pouvoir s'acheter.
Non mais quand on voit le nombre de cups qu'a passé Antoine Rosner cette année et qui finit mais comme c'est des tournois avec
moins de points
c'est
il fait pas les signatures, il fait pas les majeurs,
c'est de plus en plus difficile
C'est clair.
Bon, en tout cas, bon courage à nos Français. On va suivre ça attentivement et on espère qu'il y aura ces deux Français, Adrien Sadier et Martin Couvra, qui pourraient rejoindre Antoine Rosner, Victor Pérez et Mathieu Pavon la saison prochaine. Imaginez, 5 Français sur le PGA Tour, ce serait incroyable et ce serait un peu incroyable aussi pour notre podcast.
Ouais, enfin, le seul qui est assuré au moment où on se parle,
Mathieu Pavon.
C'est Mathieu. Il
y a les
Oui, mais moi je suis optimiste. Je me dis, on va viser les 5 et peut-être qu'on en aura qu'un. Non, et là, dans ce cas-là, on
et ça va être aussi passionnant. Ça va
exactement.
Être aussi
passionnant. Tiens, un petit mot rapidement sur l'Open de France, FedEx Open de France, qui va avoir lieu du 18 au 21 septembre prochain à Sanon-la-Bretèche, l'édition 2025 qui est délocalisée du Golfe National en raison des travaux du Grand Paris aux abords directs de l'Albatros. Il y a un champ de joueurs magnifique pour cet Open de France.
Fantastique. Il y a des joueurs du Tour américain, des vainqueurs comme Ryan Fox, Thomas Détry. Mi Woodley, Corey Connors, voilà, c'est un plateau.
Harry Hall,
Harry Hall también.
Il est là, Harry.
Qui est venu malgré sa déception de ne pas être pris.
Effectivement, il y a un plateau exceptionnel. Tous les Français sont présents et je suis curieux de voir comment ils vont aborder ce. Attention à ce que je dis. Sanon, qui est parcours vintage, fait Lancôme versus Lancôme, parce que effectivement. Même s'il y a une certaine longueur. Je suis curieux de savoir comment ils vont aborder ce parcours qui n'est pas du tout comparable au national. Et moi, personnellement, ça me rajeunit parce que je suis allé plusieurs fois à Lancôme. Et je pense qu'ils vont faire le parcours composite lorsqu'il y avait Lancôme, je pense. Et toutes ces grosses pointures, je suis vraiment très, 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 très impatient de voir comment ils vont l'aborder, ce parcours.
Alors moi, je pense qu'ils vont l'exploser. Ensuite, ce qui est quand même assez... top au moment, encore une fois, où on se parle, c'est que toutes les places VIP, tant de partenaires, sont vendues. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un vrai engouement. On le voit nous aussi, puisqu'on démarre très fort le mois de septembre. J'ai l'impression qu'il y a un vrai engouement pour le golf.
Et tous les cadres français seront là.
Et je trouverais ça canon qu'on puisse avoir plus de public qu'on a les années précédentes. Mais vous l'avez dit, le plateau, il est quand même... Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un plateau comme ça.
Bon, on va suivre ça, c'est du 18 au 21 septembre prochain, donc dans quelques jours à Saint-Nom-la-Bretèche. Alors vendredi, il y a aussi un très très beau tournoi qui va avoir lieu, c'est la deuxième édition de la Garmin Cup, vendredi 12 septembre sur le golf U-Golf d'Apremont, avec, je le disais, évidemment Garmin Cup, le partenaire c'est Garmin, Romain Fontaine est avec nous. Déjà, pourquoi cette deuxième édition? Bon, c'est vrai que la première avait cartonné.
La première avait cartonné, on est dans la continuité des choses en fait. C'est un événement convivial pour une association, donc du coup de Mathieu et de Pierre ici présents. On est dans la continuité, on veut passer un bon moment. Pour nous, c'est l'occasion aussi de rassembler pas mal de monde pour justement parler un peu de nous, de nos produits. Parce qu'on nous connaît souvent pour les montres connectées, mais il n'y a pas que ça. Et j'espère qu'on vous le fera découvrir sur le parcours, puisqu'on a tout un écosystème qui permet justement à tous les types de golfeurs de pouvoir venir et s'éclater sur le golf. Donc voilà, ça sera l'occasion pour nous de le faire.
Et... En gros, il y a une équipe Garmin, avec exactement. Les invités de Garmin, et une équipe, on va dire, RMC, anciens joueurs, personnalités, et nos invités. Et comme l'année dernière, on avait perdu, je crois, l'année dernière, face à Garmin. Oui. Mais on est très heureux, évidemment, de participer à cette compétition. C'est vrai que c'est aussi important pour l'association. Je vais en parler à Pierre dans quelques instants. Mais juste rapidement sur Garmin, tu parlais des montres connectées. Il y a quoi d'autre? Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, oui, vas-y, Fabien.
Du coup...
Oui, parce que moi, j'en ai pris, moi, bien sûr. Et pour dire que les produits sont fantastiques, mais je t'en prie, tu en parleras mieux que moi.
Bah, du coup, montres connectées, ça, c'est dit. On a aussi tout ce qui est télémètre laser avec intégration du parcours en 2D à l'intérieur, ce qui est fabuleux parce que tu as la vision du parcours directement dans la visée. Et tu as aussi tout ce qui est radar d'analyse. Donc, on avait les R10 au tout début, puis maintenant, on a le R50 qu'on vous fera tester le jour de la compétition, le 12. Et voilà, donc là, le nouveau, il est incroyable parce que vous avez l'affichage du parcours directement sur l'appareil et tout. Vous allez voir, on va se régaler. C'est un vrai petit bijou.
Je confirme.
Ouais, voilà. Bah parce que toi, dans le réseau, du coup, c'est bien. Bah,
moi, j'en ai pris plusieurs. Et ce qui est assez génial, c'est que...
Ça fait quoi, en gros?
Bah, c'est comme les radars classiques, c'est-à-dire que ça prend le vol de la balle et, le, et la phase de club. Ça veut dire que tu as autant de données que chez Trackman, chez Foresight. Et... Mais ce qui est assez génial, c'est qu'il se transporte facilement. L'écran est tactile. Tu as les parcours que les gens jouent, soit en tant que client, soit en tant qu'abonné. Et c'est aussi génial parce que tu peux très bien faire de l'outdoor, c'est-à-dire le trimballer sur le parcours, aller sur le practice, mais tu peux également aussi, et c'est ce qu'on fait, nous, on va soit dans des entreprises, soit dans des écoles, soit... et c'est canon parce que là, tu amènes le golf dans des lieux ou des endroits où... où il n'existe pas.
Ouais, t'as un écran incroyable en fait sur le produit qui te permet d'avoir un retour direct du parcours. Donc ça, c'est le plus sur le produit. Puis t'as un côté gaming voilà, qui rend aussi l'approche du golf un peu plus ludique. Et ça, on aime bien. Et c'est ça qu'on va vous faire, qu'on va vous faire découvrir.
Et un excellent, pardon, parce que c'est important, un excellent rapport qualité-prix.
Par rapport à la concurrence, c'est sûr que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il y a un abonnement qui coûte...
J'ai une com' après.
Voilà.
Oui, on a bien compris. Ouais.
Un abonnement qui coûte un peu moins de 100€ à l'année, mais qui te permet justement d'avoir toutes les fonctionnalités du produit. Donc voilà, ouais, c'est un vrai bijou.
La Garmin Cup, c'est donc vendredi pour la bonne cause. Hein, on s'amuse, c'est une compétition, c'est un loisir, c'est un sport qui nous rassemble, bien sûr, mais c'est pour la bonne cause, car pour la deuxième saison de suite, il y aura une vente aux enchères au profit de l'association de bout en bout avec le président Pierre Larteau, président de cette association, papa de Mathieu Larteau, évidemment, que nous connaissons tous, une association fondée par Mathieu et toi, Pierre, en juillet 2024 pour soutenir les personnes amputées et pour une meilleure équité de prise en charge des prothèses. Déjà, comment va cette association? On est très heureux, évidemment, d'être avec vous et de vous soutenir pour cette deuxième année de suite dans la Garmin Cup. Comment ça va, l'association?
Eh bien, si je suis là, c'est que ça va pas mal. Non, l'assaut, elle est jeune, tu fais bien de le souligner, mais on a du soutien, le vôtre entre autres, mais pas que. Comme c'est la deuxième année qu'on existe, on a eu la surprise agréable avec Mathieu quand on a refait le tour de table de nos partenaires, les sociétés. Ils sont revenus et on a commencé à dépenser de l'argent parce qu'on en a. Donc ça, c'est le plus beau. C'est qu'on on a équipé cette année des personnes qui en avaient besoin.
C'était le but déjà, je me souviens du discours de Mathieu. Absolument. La première année, c'était sa volonté.
Absolument, c'était sa volonté, mais pour se faire, on se doit d'avoir des ronds, hein, c'est important. C'est le nerf de la guerre. En gros, nos interventions se situent autour de 10 000 euros à chaque fois. Donc, c'est pas rien, et surtout, on se doit d'être un peu prospectif, c'est-à-dire que quand on accompagne une personne, il faut qu'on soit en mesure de l'accompagner jusqu'à... Si je prends le cas de notre égérie, la petite Lise, elle a 14 ans, elle n'a pas fini sa croissance, on l'a équipée d'un matériel, jusqu'à sa croissance, il faudra certainement le renouveler un certain nombre de fois, et on ne se voit pas lui dire, bah, écoute, l'année prochaine, on n'est pas là parce qu'on n'a rien pour t'accompagner. Donc, on accompagne les personnes, mais aussi en se projetant, et en leur promettant qu'on sera dans la mesure de nos moyens à leur côté jusqu'à ce qu'ils en aient plus besoin. Enfin, ils en auront toujours besoin, mais en tout cas, pour les jeunes, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur maturité en termes de développement du squelette.
Aujourd'hui, Pierre, concrètement, est-ce que ça occupe une grande partie de ton temps, toi qui es le président? Parce que, bah, comme tu l'as dit, il faut prospecter, il faut rencontrer, il faut aider. Bref, il faut faire beaucoup de choses, quoi.
Tu as raison de le souligner, si j'en crois mon entourage, ça m'occupe pas mal de temps. Moi, je n'ai pas l'impression d'y passer du temps, beaucoup de temps, mais oui, c'est consommateur de temps. Il faut effectivement rencontrer, essayer de maintenir le lien avec les partenaires. Il faut aller en chercher. Il faut aussi, et ça, c'est le côté sympa, mais quelquefois, psychologiquement, des fois, c'est un peu compliqué, je dois le reconnaître. C'est de prendre contact avec des personnes qui nous sollicitent. Et autant de temps en temps, comme la petite liste, ça peut faire du bien. Et puis de temps en temps, c'est un peu moins drôle. Parce que on suit depuis le début, depuis la création de l'asso, donc il y a un an et demi, on suit des jeunes. Et malheureusement, on aurait souhaité les équiper avant. Et il y en a qui malheureusement ont rechuté. Donc on est dans l'attente de les accompagner. Donc ça, c'est le côté quelquefois un peu compliqué à gérer.
Au jour le jour, bien sûr. Et forcément, une association, vous traitez un thème extrêmement difficile. Ouais. Mathieu est bien placé pour en parler.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette année, on avait, avec le soutien de Vae Solis, qui est une société de com qui nous accompagne, on a rencontré les politiques pour défendre, parce que je vous rappelle qu'on a deux volets dans notre asso. Il y en a un où on va essayer de faire bouger les lignes politiquement, parce qu'on considère qu'il y a une iniquité de remboursement des prothèses en fonction du mal qui a conduit la personne à être amputée. Quand je dis mal, c'est, j'oppose pas les deux, hein, c'est qu'il y a à peu près 90% des gens qui sont victimes, des personnes amputées, qui sont victimes de maladies, donc ceux-là, ils sont dans le régime classique de la sécurité sociale. Et puis, à côté, vous avez des gens qui sont victimes d'accidents domestiques, d'accidents du travail, d'accidents de la route, et qui, eux, peuvent, normalement, s'il y a un tiers responsable, bénéficier de la couverture des assurances. Donc, on ne joue pas dans la même cour. Je ne dis pas que c'est gagné à chaque fois pour eux, parce que souvent, les assurances tirent aussi essaient de payer le moins possible. On a le cas d'un...
Mais ce n'est pas le même régime, donc ce n'est forcément pas les mêmes coûts.
Ce n'est pas les mêmes coûts, et c'est surtout qu'ils ont accès à un matériel extraordinaire qui n'est pas celui que propose, mais encore une fois, heureusement que la Sécu est là, mais ce n'est pas celui que rembourse la Sécu, quoi. Donc on a rencontré cette année, c'est le début de mon propos, on a eu 6 rendez-vous politiques, on a été voir le conseiller handicap de Macron, le président Macron, 2 fois de suite à l'Élysée, on a été reçu à Matignon par le chef de cabinet du Premier ministre, on a été reçu au ministère du Travail et du Handicap par le chef de cabinet aussi. On a le sentiment qu'on est écouté. Bon, malheureusement, là, il va falloir qu'on recommence tout.
Oui, de toute façon, avec les premiers ministres, là, il va falloir recommencer tous les 3 mois, à mon avis.
Donc ça aussi, c'est consommateur de temps. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre petite sacoche et on va retourner voir chaque ministère pour leur expliquer ce qu'on aimerait voir changer.
Merci beaucoup, Pierre Lartaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Garmin, hein, avec Romain Fontaine, parce que c'est vrai que grâce à Ugolf, grâce à Garmin, eh bien, on peut venir à notre mesure, RMC aussi, vous aider pour cette association de bout en bout.fr. Je crois que l'année dernière, vous avez récolté 20 000 euros.
Absolument.
Voilà, on espère...
Dont un beau chèque de Mediagolf. Je vous remercie encore.
L'association, présidée notamment par Gilbert Bribois. On essaiera de faire encore mieux pour le vendredi 12 septembre, donc vendredi, à Apremont, Ugolf, avec plein de personnalités. Et évidemment avec cette association. Merci beaucoup Pierre Lartaud, merci beaucoup
merci à tous.
Les copains, on se retrouve vendredi pour vous parler de la Ryder Cup côté européen avec notre invité exceptionnel Nicolas Colsart. On vous embrasse, salut.
Le Practice RMC.